D'ici fin octobre, 654 romans viendront envahir les librairies. Une offre pléthorique certes, mais en baisse de 6% par rapport à l'année dernière qui comptait 701 sorties. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi soir à 21h sur Radion, votre radio locale. Je voudrais, avant de commencer l'émission de ce soir, vous signaler le Salon de Saint-André en Morvan qui se tiendra le dimanche 11 septembre prochain. Plus de 40 participants qui seront réunis sous chapiteau sur la place de ce pittoresque village du Morvan dont Corot peignit l'église au 19e siècle. Et c'est Barbara Moreau qui, cette année, sera l'invité d'honneur du Salon du Livre de Saint-André en Morvan. Rendez-vous donc dimanche prochain, 11 septembre, dans ce village situé à une quinzaine de kilomètres au sud d'Avallon. Nous vous offrons ce soir, pour cette émission de rentrée, un compte-rendu de la fête du livre de Saulieu qui s'est tenue fin juillet dernier et qui avait choisi de mettre à l'honneur l'écrivain Henri Vincenot. À cette occasion, Claudine Vincenot, la fille de l'auteur de la Bible Baude, était l'invitée d'honneur du salon. Vous ne l'entendrez pas ce soir, mais sachez que Claudine Vincenot sera notre invitée le 21 septembre prochain dans Wagon Livre sur Radion pour évoquer la mémoire de son père, donc Henri Vincenot. Laissons, pour commencer, la parole au maire de Saulieu, la charmante Anne-Catherine Loisier. Elle nous explique son attachement à la fête du livre de Saulieu. Quatrième fête du livre de Saulieu, avec le maire de Saulieu, et c'est Madame le maire, Anne-Catherine Loisier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous de répondre à ces quelques questions pour Radion et l'émission littéraire de Radion. Cette fête du livre à Saulieu, alors Saulieu que l'on connaît comme une ville d'étape, comme une ville aussi gourmande, hein, je pense bien sûr au relais Bernard Loiseau, et Saulieu avec cette quatrième édition de la fête du livre. Pour l'édile que vous êtes, c'est une manifestation à laquelle vous êtes attachée ?
Très attachée, parce que Saulieu est une petite ville qui finalement a un patrimoine culturel très riche. Celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire celui de la gastronomie, celui aussi de son sculpteur, François Pompon, un artiste réputé. Nous avons donc un beau musée que j'invite vos auditeurs à découvrir. Et l'on souhaitait encore développer cette panoplie, je dirais, cette dimension culturelle en l'enrichissant du volet littéraire, puisque finalement on se rend compte que le Morvan, plus globalement, a aussi une vie littéraire.
Quel est votre dernier grand souvenir de lecture ?
Alors en ce moment, je lis une trilogie de Mireille Calmel. Voilà.
Bien. Alors, femme étiquetée plutôt à droite, enfin pas encartée, mais mère plutôt à droite, on dit souvent la droite un peu ennemie de la culture. Ou du moins, c'est ce que les gens de gauche prétendent, que la droite n'est pas toujours très aux côtés de...
Oui, non, moi, je ne m'inscris pas dans ces images ou ces préjugés qui sont véhiculés. En tant qu'élu, j'ai envie que ce territoire se développe, que les habitants prennent plaisir à y vivre, à s'épanouir, à y découvrir des choses. C'est un territoire d'échange, de rencontre. Vous l'avez dit, Saulieu, c'est une ville-étape où on passe. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que ce passage, eh ben, il soit le plus long possible.
Madame
et puis qu'il soit...
Madame de Sévigné, en parlait beaucoup.
Oui, mais que ce passage, eh bien, il soit porteur de sens, de rencontres, de découvertes, d'échanges. Et quoi de mieux que la culture pour aller à la rencontre des autres, se découvrir, les découvrir, se redécouvrir soi-même, prendre plaisir.
Alors cette année, la quatrième fête du livre de Saulieu a mis à l'honneur la fille d'Henri Vincenot, puisque en 2012, nous fêterons le centenaire de la naissance de l'écrivain, auteur de la Bible Baude, mais aussi du pape des escargots. Que représente, pour la jeune femme que vous êtes, cet homme d'un autre âge quand même, Henri Vincenot, qui incarne une France rurale qui aujourd'hui n'existe plus?
On n'existe plus.
En 1980, il y a 1 million d'agriculteurs. À l'heure actuelle, il y en a 250 000, me semble-t-il.
Oui, mais au-delà de la population agricole, il y a des valeurs du monde rural qui sont partagées par la population, voilà, quelle que soit l'activité qu'elle puisse y mener. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos zones rurales, on voit quand même se développer, surtout vers Saulieu, les filières autour de la forestière, hein, autour de la sylviculture. Et on a aussi une population de gens retraités. Voilà. Ces gens-là sont porteurs de valeurs, d'un certain goût de la vie, d'une certaine recherche de profondeur dans ce qui les entoure, dans leur environnement, dans la nature, dans leur relation avec les autres. Et je pense qu'ils le retrouvent dans un personnage comme Henri Vincenot. C'était quand même un personnage tout en réflexion, avec un espèce d'émerveillement permanent pour tout ce qui l'entoure, quel que soit naturel ou humain, et avec ce bon sens, ce regard sur la vie et sur les autres, dans lequel on prend plaisir à se replonger, parce que c'est sain, parce que c'est véridique, c'est authentique. Voilà, je crois que c'est ça que l'on apprécie chez l'homme, et que l'on retrouve vraiment d'une manière très, très bien traduite dans son écriture. Je crois que c'est ça qu'on aime, et c'est pour ça qu'on est très fiers pour cette 4e édition, effectivement, de mettre à l'honneur à la fois cet homme et son œuvre littéraire.
Anne-Catherine Loisier, maire de Saulieu, au micro de Radion. Petite information avant de poursuivre ce compte-rendu de la 4e fête du livre de Saulieu. Dans quelques jours, ce samedi 10 septembre prochain, vous seront présentés des manuscrits, des incunables et des reliures précieuses du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale d'Auxerre, dans le cadre de la manifestation « Patrimoines écrits en Bourgogne ». Ce sera donc samedi 10 septembre prochain à 16h, l'entrée est libre, et c'est à l'auditorium de la bibliothèque Jacques Lacarrière, bien sûr à Auxerre. Présent à l'espace Jean Bertin de Saulieu, Olivier Grandjean, auteur de « Quelques femmes célèbres de Bourgogne » paru aux éditions de l'Escargot Savant, revient sur les femmes célèbres originaires du Morvan. Mais Olivier Grandjean s'est d'abord fait connaître avec un livre remarquable et érudit consacré aux inventeurs originaires de Bourgogne.
Oui, donc c'est bien cela. Et donc les inventeurs célèbres de Bourgogne, c'était 104 personnages, mais une seule femme. Donc après, j'ai écrit quelques femmes célèbres de Bourgogne pour amener la parité. Et donc aujourd'hui, j'ai fait une conférence sur les femme célèbre du Morvan, justement pour montrer qu'il y avait aussi des femmes célèbres dans le Morvan. Et donc en fait l'objectif, c'était aussi de montrer que dans le Morvan, les femmes avaient cherché la liberté et l'égalité tout autant que sur le reste de la planète, et qu'elles avaient même presque plus qu'ailleurs eu la vie dure avec justement le féminisme et la recherche de la liberté.
Quelques noms, justement, de ces Morvandelles qui ont laissé une trace dans l'histoire de la Bourgogne et de la France également, tout entière.
Ah, il y en a beaucoup. J'ai commencé donc avec Jeanne Barré, car on ne peut pas l'oublier, c'est la première femme à avoir fait le tour du monde. Elle était obligée de s'habiller en homme à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de monter sur les bateaux. Mais plus récemment, il y a Maria Valta, par exemple, que je n'ai pas mis dans le livre, mais qui sera certainement dans un autre prochainement, qui elle a créé un mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle était même presque plus forte que n'importe quel résistant masculin. Et elle a créé des réseaux, et même elle dirigeait ces réseaux-là, aussi bien en Côte d'Or que dans l'Aube, la Marne, la Saône-et-Loire. Et jamais la Gestapo n'a pu la prendre. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est pour ça qu'elle méritait de faire partie de ces femmes qui ont recherché la liberté.
Alors pour en savoir plus, évidemment, on peut creuser la question. Hein, je ne peux qu'encourager nos auditeurs à aller donc se procurer votre ouvrage, Olivier Grandjean, « Quelques femmes célèbres de Bourgogne » aux éditions de l'Escargot. Mais l'escargot savant. Et je me tourne vers Lucienne Delisle. Alors, Lucienne Delisle, vous vous êtes penchée sur les explorateurs et les aventuriers originaires de Bourgogne. Et aujourd'hui, à la 4e fête du livre de Saulieu, vous êtes revenue notamment sur la personnalité exceptionnelle d'une femme née à la campagne gardienne d'oie et qui a connu une ascension sociale absolument remarquable dans le grand monde parisien.
Oui, Madame Boussicot, quand même, a démontré qu'on pouvait réussir en partant de rien. Donc, c'est déjà un défi qu'elle s'est lancé. Et mon livre, Aventurier, explorateur de Bourgogne, justement, parle de ces gens de défi qui ont osé prendre la vie à bras-le-corps pour démontrer de quoi ils étaient capables. Je pense que chacun d'entre nous a un jour eu envie de vouloir changer sa vie, changer son destin. Et pour cela, il faut savoir se lancer un défi, parfois qui peut sembler insurmontable. C'est le cas de, je parle de marins, bien sûr, je parle d'aventuriers bourguignons comme comment je trouve pas le nom, dans la chrétienté on a eu des aventuriers, dans les aventuriers aussi de la plume aventurière comme Piron, qui est, je trouvais qu'il était assez intéressant.
Vous parlez du méhariste dijonnais,
voilà,
parlez même de votre éditeur,
des contemporains comme oui, Régis Belleville, Christian Kampf, qui sont, et puis y compris Charles de Foucault et Théodore Monod, qui sont pas bourguignons en soi, mais qui avait un pied à terre en Bourgogne. Donc c'est surtout, alors bien sûr, vous allez me dire pourquoi Madame Boussicot, elle a créé le Bon Marché avec son mari, c'est pas l'aventure, mais c'est, moi j'ai voulu développer l'aventure au sens large du terme, pas seulement l'aventure de voyage comme on peut l'imaginer, l'aventure de vie tout simplement, parce que j'estime que déjà venir au monde c'est déjà une grande aventure, et on ne sait jamais comment ça va se terminer. Donc voilà.
Donc c'est un ouvrage pour celles et ceux qui ont besoin d'aventure et qui sont à la recherche
entre autres, mais surtout à pouvoir changer le destin, changer son destin, vouloir changer sa vie en prenant la vie à bras le corps et se dire, quand viendra la vieillesse, j'aimerais pas me dire que j'ai pas vécu quoi. Il y a une formule comme ça que j'ai pas en tête vraiment, mais c'est un peu ça en fait.
Des personnages hauts en couleur à retrouver en feuilletant le livre de Lucienne Delisle, Aventuriers et explorateurs de Bourgogne, paru aux éditions de l'Escargot Savant et disponible auprès de vos libraires habituels. Avant de marquer une pause musicale, ne manquez pas les 24 et 25 septembre prochains au château du Clos de Vougeot, la 4e édition de Livres en Vigne, présidée cette année par Patrick de Carolis, l'ancien président de France Télévisions, dédicacera son roman, paru chez Plon, La Dame du Palatin. Tous les auteurs invités sont à découvrir sur le site de livresenvigne.com.
Il était une fois un poisson fin. Il aurait pu être poisson si ou ré ou sol, ou tout simplement poisson d'eau, ou même un poisson un peu lard. Non, non, il était poisson fin, un poisson fin, voilà. Il n'avait même pas de dièse, et d'ailleurs s'en trouvait fort aise. C'est un truc, disait-il, à laisser à l'écart. Après, pour l'enlever, il vous faut un bécard. Et un bécard, c'est une chaise qui a un air penché et pas de pied derrière. Alors très peu pour moi, autant m'asseoir par terre. Non, 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 pas de dièse. Quoi, vous avez le front de trouver cela bon? Un dièse qui vous suit partout comme un cabot, comme il disait ses mots. Passé sur le trottoir, un cabot très truité qu'il avait vu trop tard et qui avait ouï la fin de la harangue. Utifa impeto, j'ai mal tenu ma langue. Ça pourrait me coûter poisson, c'est comme ça qu'on dit en langage poisson. On ne dit jamais cher, on dit toujours poisson. Je crois bien que j'ai mis la queue dans la saucière. Encore une expression de ce langage-là qu'on emploie au lieu de mis les pieds dans le plat. Mais le cabot hautain, passé sans sourciller, cependant quand il fut passé plus qu'à moitié d'un grand coup de sa queue, il te souffle ta fa, a, a, et fa, a, c'est froissé, parti k, un, k, un, k, a. Il s'en allait soigner son dépit de poisson au débit de boisson. Il était une fois un poisson fin.
Radionne. Radionne. Suite du compte-rendu de la quatrième fête du livre de Saulieu avec Janine Bardonnet, rédactrice à Vent du Morvan, elle nous présente le sommaire du dernier numéro de ce beau magazine associatif.
Comme beaucoup de numéros de Vent du Morvan, il comporte un dossier central et celui du dernier numéro, c'est un dossier sur Ouroux en Morvan. On a un dossier sur Saulieu, on en avait un sur Anneaux, on avait, voilà. Et là, le dernier est sur Ouroux en Morvan. Mais, et en dehors du dossier central, qui valorise la vie au quotidien dans ce petit bourg d'Ouroux en Morvan, autour de ce dossier central, vous trouvez des articles que je trouve, moi, complètement intéressants. Par exemple, un article sur la médecine en Morvan, par interview d'un médecin de Montsauge. Qu'est la médecine en Morvan aujourd'hui et que sera-t-elle demain ? C'est un article tout à fait intéressant sur l'évolution de la médecine. On trouve naturellement toujours le petit chapitre langue où Pierre Léger se fait un plaisir fou et donc fait un plaisir fou à ses lecteurs en parlant Morvandio, en écrivant Morvandio. On trouve des itinéraires un peu particuliers, tiens, ça vous intéresserait, vous, ça, l'itinéraire particulier, par exemple, d'une personne qui a commencé par vendre des fromages de chèvre et puis qui se retrouve libraire, et parce que c'est ça qui lui plaît, d'être libraire.
Alors, un article signé Jean-Charles Couny, notre Jean-Charles Couny, qui est présent d'ailleurs à la quatrième fête du livre de Saulieu avec son dernier roman, La Parisienne, et il a reçu à Saulieu l'année dernière, en 2010, le prix du Morvan, dont il est si fier, et on peut le saluer, notre Jean-Charles.
Tout à fait.
Ça, c'est quelqu'un que nous aimons bien tous les deux.
Hein, oui, parce que c'est un homme de relations. Et c'est un homme qui découvre des talents, qui sait parler aux gens, qui sait attirer des gens dans l'orbite de Vent du Morvan, et ça, c'est et sympathique.
Il est chaleureux et sincère.
Voilà,
enfin,
voilà.
On rappellera La Parisienne, titre du roman de Jean-Charles Couny, qui, comme vous, Janine Bardonnet, est rédacteur, chroniqueur régulier à Vent du Morvan. Alors, feuilletons encore un petit peu Vent du Morvan, s'il
vous
plaît.
Alors, dans ce dernier numéro, vous avez des images extraordinaires, photos de Claude Lemel, le rédacteur en chef, des images extraordinaires du tympan d'Autun. Magnifique cathédrale d'Autun. Et ça, alors, des photos comme ça, du tympan d'Autun, je n'ai jamais vu. Moi, je ne sais pas comment il a fait techniquement, mais c'est superbe, vraiment superbe. On y trouve aussi des articles sur qui viennent du parc naturel régional du Morvan. On a un contrat avec le parc naturel régional qui a toujours un article sur la vie de la nature dans le Morvan, avec des photos magnifiques d'insectes, de petites plantes, de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un journal, celui-là, une revue, pardon, celle-ci, comme les numéros précédents, qui allie un regard sur ce qui fait la richesse historique du Morvan, un regard sur ce qui fait sa beauté naturelle, sa richesse naturelle. Ça, c'est quand même un des supports extraordinaires du tourisme en Morvan aujourd'hui, c'est le tourisme vert, et on en trouve vraiment de très belles traces là-dedans. Et puis également des ouvertures sur ce que peut être la vie économique dans le Morvan aujourd'hui.
Donc, on ne peut qu'encourager nos auditrices et auditeurs à se procurer donc le dernier numéro de Vent du Morvan avec un nouveau prix en baisse,
oui,
7,50 € contre,
au lieu de 9 euros avant.
Voilà, Vent du Morvan.
Voilà, nous avons réussi à équilibrer les finances de l'association et par conséquent, nous avons tout de suite baissé le prix de la revue.
Merci Janine Bardonnet. Alors à nos côtés, une dame, une artiste, peintre, philosophe aussi à ses heures, qui est présente à Saulieu. Et on a déjà eu l'occasion de rencontrer Johanna, c'était au Salon du Livre de Tonnerre, au mois de juin passé. Et Johanna est d'origine néerlandaise, elle est installée en France depuis 2004. Et Janine Bardonnet, vous avez entre vos mains le livre
qu'a illustré et écrit Johanna Emmans, donc un livre tout public. Alors je vais donner la parole à Johanna d'abord, et puis ensuite, Janine Bardonnet, je vous demanderai peut-être si vous avez des questions à poser à Johanna, de les lui soumettre, bien sûr. Johanna Emmans, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices et auditeurs de Radion?
Je m'appelle donc Johanna, et comme Yannick a déjà dit, j'ai édité sur compte d'auteur mon premier livre, Un six pas Noël, un six pas Pâques. Et après, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé heureusement la réponse. Je suis la première personne qui édite un livre avec que ces deux histoires, un livre illustré. Donc,
avec une thématique chrétienne, puisqu'il s'agit de la naissance, de la mort et de la résurrection du Christ.
Du Christ, oui, exact. Et donc, dans les libraires, on ne trouve pas encore un livre avec que l'histoire de la naissance de Jésus et que l'histoire de la résurrection de Jésus. Ou bien on trouve des livres qui parlent de Noël, de sa naissance, ou bien très peu on trouve des livres sur sa résurrection, ou bien on trouve des livres avec toute sa vie, mais pas que le Noël et Pâques. Donc je suis super fière d'être la première personne à l'avoir trouvé comme ça. Et donc voilà, le livre est tout coloré, très, très gai, il y a plein d'humour dedans. Donc c'est vraiment un livre pour tous les âges.
Alors, Johanna, je vais demander à Janine Bardonnet, qui est agrégée de philosophie, je vais lui demander quel regard elle porte, elle qui a une sensibilité et une fibre littéraire très développée. Quel regard portez-vous sur le livre de Johanna Emmans, dont je rappelle le titre, hein, Ainsi soit Noël, ainsi soit Pâques, Janine Bardonnet?
Ah, je dois dire que c'est mon premier plaisir quand j'ai eu ce livre entre les mains ce matin. Mon premier plaisir, c'est ce jeu sur les mots. Et de la part d'une néerlandaise, c'est extraordinaire parce que c'est un jeu sur les mots en français.
Merci.
Hein? Ça, vraiment, j'ai trouvé ça très, très agréable. Pourquoi est-ce que c'est seulement la naissance et la mort et la résurrection qui vous intéressent? Qu'il vous a intéressé de présenter?
Plutôt parce que je n'ai pas jamais dit que la vie de Jésus ne m'intéresse pas du tout, au contraire. Mais les deux histoires, sa naissance et sa résurrection, sont tellement fortes que j'ai voulu les mettre ensemble pour les fortifier, mutuellement. Donc il y a pas mal de choses communes dans les deux histoires, et j'ai donc essayé dans les images de les peindre dans la même façon. Par exemple, la bouteille, vous avez entre vous la bouteille de parfum de la Sainte Marie Madeleine, c'est la même bouteille que vous voyez au roi mage, qui ont apporté des cadeaux pour la naissance de Jésus.
Mm-hmm. C'est vrai. C'est vrai. J'avais idée comme ça quand j'ai vu ces deux thèmes, mais ça, c'est ma manière à moi de lire les choses.
Au plaisir.
Je pensais à la mère du Christ, qui dans un cas est la mère rayonnante, la mère dans toute sa splendeur, dans toute sa joie.
Oui.
Et puis la malheureuse mère qui assiste à la mort de son fils. Et moi, j'ai toujours un petit faible pour les Pietà.
Oui, et il y a un Pietà dedans.
Et il y a une Pietà. Et une Pietà, mais traitée de manière très... En fait, comme les autres, quoi, si j'ose dire.
La Pietà. Et là, je l'ai dessiné, bien sûr, à ma façon, avec mes personnages. Mais la position de la Pietà est la position classique. C'est la mère, Marie, qui tient son fils, merci pour le mot, et que l'autre bras, le bras de Jésus, qui traîne par terre. Et ça, on voit dans les images classiques, de Pietà, et j'ai gardé cet esprit comme j'ai gardé les couleurs traditionnelles, que aussi pour que les enfants apprennent quand ils voient dans une église une femme vêtue en bleu, que c'est la Vierge Marie. Quand ils voient une femme vêtue en rouge, que c'est la Sainte Marie-Madeleine. Donc ça, j'ai fait exprès, j'ai joué un peu là-dessus, mais là, l'iconographie classique, j'ai respecté dans ce sens-là. Donc, voilà.
Voilà. Une dernière petite remarque, Jeannine Bardonnet, par rapport donc à l'ouvrage illustré par Johanna Emmans, donc « Ainsi soit Noël, ainsi soit Pâques ».
Oui. On pourrait terminer par « Ainsi soit-il ».
Tout à fait.
Ce serait la fin de votre interview.
Ce serait la fin de notre échange. Merci Jeannine Bardonnet. Je rappelle donc le dernier numéro de Vent du Morvan et le livre de Johanna Emmans, « Ainsi soit Noël, ainsi soit Pâques ». Johanna, comment peut-on se procurer ton livre ? On te contacte par téléphone ?
On peut me contacter par téléphone ou par email. Ça, les deux sont possibles. Donc, voilà, je vous laisse mon numéro de téléphone. Alors, c'est 03 86 32 35 14. Et mon adresse email, ça sera miosotisdoré@gmail.com.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent.
Excellente soirée à l'écoute de Radion, votre radio locale. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Harley Davidson par Brigitte Bardot sur le 90.5. Une chanson qui annonce plutôt bien la prochaine interview puisque nous mettons les gaz pour faire connaissance avec Thierry Dubois, illustrateur et passionné par l'histoire de la National 6.
Je suis illustrateur et je travaille sur l'histoire de la National 6 par passion depuis une quinzaine d'années.
Alors vous êtes l'auteur d'un très beau livre documentaire documenté avec moult photographies en noir et blanc qui nous ramène dans une période de grande nostalgie. Donc votre livre s'intitule « C'était la Nationale 7, la route bleue, la route Nationale 6 ». Donc c'est aux éditions Drivers. Et alors voilà un projet qui a nécessité des années de travail, de recherche, de curiosité et de passion, forcément.
Ah, surtout de la passion. Hein. C'est vrai que tous les gens qui me connaissent le savent. Je recherche sans arrêt des documents, des témoignages, des photos, de tout. Et puis cette route, je la parcours 6 à 8 fois par an. Quoi. Donc je la connais vraiment bien.
Alors effectivement, c'est, on peut dire, le trajet de Paris jusque...
Jusqu'à la Côte d'Azur. Alors, on parle toujours de National 7 à cause de la chanson de Charles Trenet, mais quand on écoute les paroles de la chanson de Charles Trenet, qui traverse la Bourgogne et la Provence, on sait qu'il prend la 6 entre Paris et Lyon. Parce qu'il y avait à peu près 3 fois plus de gens qui prenaient la National 6 que de gens qui prenaient la National 7 pour aller jusqu'à Lyon.
Alors, on peut imaginer qu'avec la création de l'autoroute, enfin en tout cas la continuité de l'autoroute, la disparition du trafic sur cette désormais légendaire National 7, c'était quand même une aventure pour les familles. La National 7, c'est, j'imagine, pour encore des personnes d'un certain âge, j'imagine que c'est quand même un ensemble souvenirs mémorables.
C'est toujours des souvenirs liés. Oui, et puis c'est souvent des souvenirs liés aux périodes de vacances, donc de bons souvenirs. Et puis on oublie le mauvais côté, les embouteillages, les accidents et tout ça. On en retient effectivement le soleil, les vacances, les restaurants, tout ce qui faisait le plaisir des voyages à l'époque.
Mais une vie économique tout de même autour de cette National 7 qui était un petit peu, j'imagine, nourricière.
Ici, on est à Saulieu, on est à 260 km de Paris. 260 km, c'était la distance que faisait une voiture qui partait de Paris le matin pour arriver à midi. C'est pour ça qu'il y a autant de restaurants dans la région et des grandes tables. Pareil, les gens faisaient le plein, donc il y avait toujours beaucoup de garages à 250 km de Paris.
Est-ce que vous pouvez, parmi, j'imagine, les nombreuses anecdotes savoureuses que vous avez pu entendre et recueillir, est-ce que vous pouvez nous en mentionner une, nous en citer une ?
On pourrait rappeler le site, la station des Petits d'Acollet, qui a quand même beaucoup marqué les gens. La station des Petits d'Acollet se trouve à la sortie de Vermenton, avec un gigantesque vase sur le toit. C'était toute une confrérie de potiers qui s'étaient installés et qui travaillaient et qui vendaient ses produits sur le bord de la route. Ça avait eu beaucoup de succès dans les années 50 et 60, au point d'ouvrir cette station. Cette station, malheureusement, a été fermée dans les années 90. Et puis, elle s'était abîmée, elle avait été vandalisée. Et on s'est battu avec les amis de Vermenton pendant des mois pour essayer de la garder, mais finalement le conseil général a décidé de la raser, quoi. À la demande de nombreux riverains, malheureusement.
Thierry Dubois, il faut aussi évoquer un autre aspect de votre production, c'est la bande dessinée, puisque vous êtes, vous l'avez dit, illustrateur professionnel. Et mentionnons donc votre bande dessinée, Une aventure de Jacques Gipa. Donc ça, c'est votre personnage, c'est un personnage récurrent et qui, là, intervient dans une bande dessinée qui a pour titre « Le retour des Capucins » et c'est aux éditions Paquet.
Alors, Jacques Gipa est un journaliste qui spécialisé dans les faits divers. Il enquête sur l'évasion d'un détenu qui va l'amener dans la région de Saulieu où une mystérieuse bande rançonne les voyageurs à la façon des bandits du XVIIIe siècle, quoi. Et donc, toutes les actions se passent autour de Saulieu et dans la région, et notamment beaucoup sur la National 6.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour un serait un.
Pour contacter Radion, 03 86 46 50 50. Radion.
Créateur des éditions de la Frémillerie installée dans Lyon, à Lavaux, non loin de Saint-Fargeau, Tay Huynh nous présente une des dernières publications de sa maison d'édition, Le Chant du Cygne, roman graphique signé Cyril Carreau, et donc disponible aux éditions de la Frémillerie.
Donc il s'agit d'un roman graphique, on a voulu tenter une nouveauté pour nous. Il s'agit d'un roman, d'un polar, qui se passe pendant la Grande Dépression aux États-Unis, donc la Prohibition. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cyril Carreau, qui lui est de Marseille.
Et il a bientôt 40 ans. Il est de Marseille.
Et qui justement nous a proposé un livre sur qui se prête bien à cette notion de livre graphique. Et donc Elie Darcos s'est chargé d'illustrer ce livre par une vingtaine d'illustrations. 23 illustrations donc, qui enrichissent le texte du livre.
Alors je vais demander à Cyril Carreau de s'approcher un peu de notre micro et de développer un peu plus ce que l'éditeur et créateur de la Frémillerie, Tay Huynh, vient de dire à l'instant.
Tout d'abord, bonsoir. Alors, Le Chant du Cygne, c'est un roman que j'ai écrit il y a quelques années. Et j'étais pas complètement satisfait. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et ma compagne, qui est illustratrice, je lui ai demandé si justement elle pouvait le lire et faire quelques dessins pour apporter un plus sur ce roman. C'est un roman très noir. Qui relate l'histoire d'un tueur à gages. Ça commence à Venise, en 1920, pendant le carnaval, où il exécute quelqu'un, il fait un contrat, et son ancien capitaine, durant la Première Guerre mondiale, le contacte pour une mission qui doit se dérouler à New York. Donc il se rend à New York, il accepte la mission, et là, il découvre le monde de la pègre de la mafia italo-américaine. Et c'est le début de la Prohibition.
Alors, je lis la quatrième de couverture, mais que ce soit le long des canaux de Venise ou des rues de la Grande Pomme, l'élément liquide n'est pas bien loin, l'eau, la sueur ou le sang. Alors, je me tourne maintenant vers l'illustratrice Elie Darcos. Alors Elie, comme ça, une jeune femme va illustrer... un roman glauque, noir, très sombre, où les cadavres s'accumulent.
Oui, alors de toute façon, le roman policier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à lire. Celui-ci m'avait tout de suite plu par la force des images qu'il y a. Le fait est que ce sont souvent de courts chapitres avec des scènes qui sont très visuelles et donc c'est très facile, j'ai trouvé ça très facile pour moi de trouver des idées, des inspirations pour rendre l'émotion en image. J'ai utilisé un média qui est l'encre, directement sur des feuilles canson. Ça donne un petit côté nerveux aux images. Il y a beaucoup de traits. Parfois, c'est très noir, c'est très gribouillé. C'est un peu pour montrer la violence qu'il peut y avoir dans certaines scènes. Et il y a aussi quelques illustrations qui sont... construites un peu comme des images de comics ou de bandes dessinées, avec différents points de vue qui se juxtaposent. Ça, c'est pour le côté un peu moderne, et puis pour le côté, pour relier un petit peu par rapport à l'époque supposée du livre, c'est vrai que le noir et blanc et certains détails font penser aux gravures de cette époque.
Le Chant du Cygne, roman graphique de Cyril Carreau, disponible aux éditions de la Frémillerie, avec des illustrations de Elie Darcos. Retrouvez le catalogue des éditions de la Frémillerie sur internet sur www.lafremillerie.fr. Ne mettez pas l'accent à Frémillerie. Animatrice de la 4e fête du livre de Saulieu et professeure de lettres au collège de Chablis, Sandra Amani est l'auteur d'une bande dessinée intitulée « Légendes du Morvan », adaptée d'un recueil qu'elle avait écrit en 2007. Mais ce soir, devant le micro de Radion, Sandra nous fait découvrir deux jeunes auteurs.
Oui, je voudrais dire que ça me fait très très plaisir chaque année d'animer ce salon parce que justement, je découvre de jeunes auteurs. Et là, aujourd'hui, j'ai rencontré Anaïs Cancet au Salon d'Anneau et je lui ai demandé d'être présente aujourd'hui, ce qu'elle a accepté avec grande joie. Et aujourd'hui également, j'ai fait la connaissance d'Aurélie Dubois, qui publie également son premier roman. Toutes les deux ont un point commun, le fantastique. Et maintenant, je vais leur laisser la parole à ces demoiselles.
Donnons la parole à Aurélie Dubois. Bonsoir Aurélie, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices et auditeurs de Radion ?
Alors bonsoir, je suis Aurélie Dubois, je suis de Marmagne, entre le Creusot et Autun en fait, et je travaille dans un hôpital et je viens de sortir effectivement mon premier livre, On m'a conté l'histoire, en mars de cette année.
Est-ce que vous pouvez présenter l'intrigue, la thématique, donner le fil conducteur de ce premier roman ?
Alors en fait, c'est un recueil de 3 contes, c'est beaucoup de magie, de féerie, il y a notamment l'histoire d'une petite licorne qui naît un jour dans l'Olympe et il va lui arriver des tas d'aventures. Ensuite, il y a l'histoire de 3 jeunes enfants dont une fée vient chercher une nuit pour les emmener au Pays Merveilleux parce que quelqu'un a volé le flocon magique et s'il n'est pas retrouvé avant Noël, disons que le Père Noël ne peut pas amener les cadeaux s'il n'y a pas de neige. Donc le but, c'est que ces 3 enfants retrouvent qui a volé le flocon pour le remettre en place et que le Père Noël puisse enfin passer. Et le troisième conte, c'est l'histoire de Lénéa, une jeune guerrière dont le destin est de pourchasser Botnac, le terrible dragon qui dévaste tout sur son passage. Et là, elle va faire la rencontre de centaures, de tas de choses dans le... Enfin...
Vous puisez dans la mythologie.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Mentionnons donc On m'a conté l'histoire. Donc c'est un roman, c'est un premier roman, donc signé d'Aurélie Dubois et c'est aux éditions Velours. Merci Aurélie.
Tout à fait, merci.
Alors on se tourne vers votre voisine cette fois-ci, qui est une très jeune fille avec de très beaux yeux bleus et qui se prénomme Anaïs. C'est Anaïs Cancet. Et Anaïs, vous faites paraître le tome 1 d'un ouvrage qui s'intitule « Destiné » avec un point d'exclamation aux éditions Edilivre. Alors Anaïs Cancet, est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter à nos auditeurs ?
Donc je m'appelle Anaïs Cancet, je suis étudiante à Dijon.
Dans quel domaine ?
En psychologie.
D'accord.
J'habite dans un petit village. L'écriture, ça m'est venu comme ça du jour au lendemain, ça m'a toqué et puis depuis j'arrête pas d'écrire. J'ai publié mon premier livre Destiné en février de cette année et là je suis en train d'écrire la suite.
Alors vous avez 19 ans, à 19 ans rares sont les jeunes filles qui écrivent. Vous êtes une originale ou perçue par vos camarades comme une originale?
Oui, en règle générale je sors un petit peu du lot mais en fait je me suis mise à aimer ça et du coup les gens maintenant ils s'y font, ils me font « Ah, vas-y, fais-moi lire !» C'est assez marrant parce que en règle générale, comme on dit, je suis un peu trop jeune ou juste un peu jeune pour écrire. Alors du coup, les gens le remarquent en fait.
Alors que racontez-vous dans ce roman intitulé « Destiné » avec un point d'exclamation ?
Ah oui, c'est pour bien. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sur Terre, qui est orpheline, et elle cherche ses origines, elle veut absolument savoir d'où elle vient, et un jour, il y a un garçon qui vient la voir, qui a des pouvoirs surnaturels, énormément de magie, et il l'emmène avec elle, et puis il lui dit qu'en fait, c'est une très puissante princesse dans un monde complètement féerique, avec des anges et des elfes, et à partir de là, il faut qu'elle apprenne à vivre avec sa nouvelle vie, et Découverte, justement, le titre, c'est exprès pour bien montrer que tout le long du tome 1, en fait, elle apprend à tenir son nouveau rôle.
Alors, est-ce que vous avez lu certains des travaux et des écrits de Sandra Amani à nos côtés ?
J'ai feuilleté sa BD.
On va d'ailleurs en parler d'ici quelques minutes. Vous avez feuilleté la bande dessinée que Sandra a fait paraître ?
Après, non, j'ai pas lu en entier, mais j'aimerais bien.
Alors je rappelle donc Anaïs Cansé, Destinée, aux éditions Edilivre, Destinée avec un point d'exclamation, et on rappellera le titre du premier roman d'Aurélie Dubois, On m'a conté l'histoire, aux éditions Velours. Et cette fois-ci, Sandra Amani, on revient vers toi, Sandra, l'animatrice de cette quatrième fête du livre de Saulieu, parce que tu es toujours dans l'actualité, on te voit tout partout dans... Bien sûr, physiquement, mais également à travers tes livres, que ce soit à Auxerre, dans le nord du département de l'Yonne, que ce soit à Avallon, dans la Nièvre, en Bourgogne, Sandra Amani, c'est quand même un auteur qui vend bien, si je peux me permettre cette formule un peu triviale.
Alors, je ne sais pas si c'est l'auteur qui vend bien ou si c'est le Morvan qui vend bien. Parce que moi, je continue dans ma tradition, c'est-à-dire que là, j'ai reformulé en BD, j'ai été scénariste de la BD Légende du Morvan, adaptée donc de mon recueil qui a été écrit en 2007 et qui a eu, ma foi, beaucoup de succès parce que je pense que les gens aiment le Morvan. Et ici, et dans toute la Bourgogne d'ailleurs, le Morvan, je pense, est inscrit dans les gènes des gens.
Alors tu nous rappelles donc, c'est le titre de la bande dessinée et l'éditeur.
Légende du Morvan aux éditions de l'Escargot Savant en collaboration avec un éditeur parisien, les éditions du Cygne, qui sont spécialisées dans le régionalisme justement et qui venaient de publier La Bête du Gévaudan, écrite par Jean-Claude Bourret, juste avant de publier Mes légendes du Morvan.
C'était Sandra Amani au micro de Radion. On va se retrouver après une pause musicale pour la suite du compte-rendu de la quatrième fête du livre de Saulieu. On va marquer une pause musicale en accordéon avec un morceau de Christiane Fomerand. Christiane Fomerand qui habite Cosne-Cours-sur-Loire et qui participe à de très nombreux salons en Bourgogne. On vous embrasse, chère Christiane. Et on laisse les auditeurs découvrir ce tango un jour si tu partais. Je rappelle d'ailleurs aussi que l'accordéon est au rendez-vous chaque dimanche de 10h à 11h sur l'antenne de Radion, une émission animée par notre ami André Trichot.
Nous avions pour nous la jeunesse et nous brûlions la vie par les deux bouts, tendre baiser, douce caresse. Mais nous étions tous deux un peu fous. Nous avions, c'est vrai, le grand espoir de vivre ensemble un éternel amour. Tant de projets nous faisions chaque soir, sans faire de longs discours. C'est vrai que j'avais l'espérance que tu serais toujours à moi. Mais quand se faisait le silence, je te disais à chaque fois toutes mes craintes d'autrefois. Un jour si tu partais pour chercher l'aventure, jamais je ne pourrais te dire dans un murmure combien je t'aime et que je t'aimerai pour toujours. Tu es pour moi toute ma vie et mon cher amour. Un jour si tu partais, tu briserais mon cœur. Alors qu'on partageait le plus doux des bonheurs. Même si de temps en temps nous avons eu des tourments, on ne pourra jamais oublier toutes ces heures du passé. C'est que j'avais l'espérance que tu serais toujours à moi. Mais quand se faisait le silence, silence, je te disais à chaque fois toutes mes craintes d'autrefois. Un jour si tu partais pour chercher l'aventure, jamais je ne pourrais te dire dans un murmure combien je t'aime et que je t'aimerai pour toujours. Tu es pour moi toute ma vie et mon cher amour. Un jour si tu partais, tu briserais mon cœur. Alors qu'on partageait le plus doux des bonheurs, même si de temps en temps nous avons eu des tourments, on ne pourra jamais oublier toutes ces heures du passé.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Au Salon du Livre de Saulieu, on rencontre, à certains stands, des auteurs qui sont avant tout des poètes, ceux qui ont l'audace de jouer avec les mots, ceux qui n'ont pas renoncé finalement à l'ambition de la littérature, c'est-à-dire d'être quelque part une tentative de jouer avec les mots, de se faire plaisir, de libérer la langue. Et à mes côtés, Paul-Henri Vincent, pour un recueil, je lui demande bien sûr de se présenter. Le titre du recueil de Paul-Henri Vincent s'intitule « Écoute le silence du monde », paru aux éditions Musimo. Paul-Henri Vincent, puis-je vous demander de vous présenter un peu à nos auditeurs ?
Oui, bonjour. Alors, je suis né à Chalon-sur-Saône et j'ai vécu 5 années à Auxerre pour des raisons professionnelles. Et depuis 30 ans, je suis en Auvergne.
Voilà. Alors, vous avez placé en exergue à ce recueil de poèmes en prose. On parle de poèmes en prose, ça vous convient ?
On peut dire, ou prose poétique, si
prose poétique,
revient un peu
si
même.
Vous préférez. Vous avez donc mis en exergue une citation de Pascal Quignard. Je la lis. Plus tard, écrire me permit de dire sans parler. Et je vais la relire à nouveau. Plus tard, écrire me permit de dire sans parler. Alors, dire sans parler, est-ce que vous pouvez donner encore plus de sens à ce qui se cache derrière cette formule audacieuse et peut-être ambiguë également?
Disons qu'elle me convenait parfaitement parce que je me trouvais peut-être un peu comme Pascal Quignard, pas très à l'aise avec le langage oral. Mais par contre, à l'écrit, bon, c'est là que tout a commencé à se débloquer. Et puis alors, justement, ça correspond très bien avec ce livre qui parle du silence. Du silence, et j'évoque à travers le cas d'un enfant autiste, c'est pas un cas particulier, c'est à partir de plusieurs observations, puisque j'ai travaillé dans le secteur médico-social avec des autistes entre autres. Je prends cet enfant autiste et j'en fais un peu mon porte-parole, et je le décris, et je décris aussi les personnes qui l'entourent, famille et proches, qui sont désemparés de ce silence. Et j'essaye d'aller plus loin et de montrer comment on peut aller au-delà de ce silence par une écoute différente, entre autres, oui, dans le silence, il se loge quelque chose que l'on peut percevoir si on tend l'oreille. Je ne donne pas la solution, c'est juste une piste.
Donc en fait, vous essayez de nous réconcilier avec ce qui souvent fait peur, le silence fait peur.
Et oui, c'est vrai, tout à fait. Oui.
Alors, Paul-Henri Vincent, je rappelle le titre de votre recueil de prose poétique, « Écoute le silence du monde », une invitation finalement aussi à dépasser les peurs et à découvrir un univers qui nous permet aussi de nous retrouver, le silence.
Par l'écoute.
Par l'écoute.
L'écoute qui dépasse seulement l'écoute avec l'oreille, enfin l'écoute, une attention permanente à ce qui... Dans une époque où on est bombardé d'informations, justement.
De tumulte, de brouhaha.
Oui. Alors qu'il y a un silence qui est riche d'informations et de choses profitables.
Merci Paul-Henri Vincent. On se tourne, et vous restez à nos côtés, on se tourne vers Georges Raymond,
qui est l'auteur, lui aussi, d'un recueil de poèmes, de textes poétiques en prose. Et qui...
Promenade en poésie.
Promenade en poésie. Et le titre est « Ici, Vente et Morvante », donc recueil de Georges Raymond. Alors Georges Raymond, même question, puis-je vous demander de... J'allais dire, de nous glisser votre carte de visite ?
Eh bien, je suis un pur produit de la terre morvandelle, bourguignonne, né à Précy-Soutil, donc en Aussois, à la lisière du Morvan, à quelques kilomètres de Saulieu. J'ai fait ma carrière dans l'enseignement comme instituteur, puis comme professeur de collège, carrière que j'ai terminée comme inspecteur de l'éducation nationale à Avallon, c'est-à-dire au cœur du Morvan, auquel je suis resté fidèle puisque j'ai pris ma retraite à Avallon même. Et c'est vrai qu'à travers ce petit ouvrage de poésie, je retrace avec les mots du poète ces photos du Morvan que j'ai parcouru de long en large en tant qu'inspecteur, puisque j'allais d'école en école et que je connais pratiquement sur le bout du doigt la plupart des écoles de tout ce secteur de Lyon, du sud de Lyon, qui appartient pour une bonne part au Morvan.
Alors cette promenade en poésie, c'est donc aussi, un peu à la manière de Vincenot, une manière de célébrer son pays, ses racines.
Ah, tout à fait. De célébrer son pays, ses racines, les gens qui m'ont marqué comme nos propres parents. Et je pense en particulier à un texte que j'ai écrit à propos de mon père, qui était à la fois un laboureur, un cultivateur dans l'âme, mais qui était aussi un barde, disons, qui animait avec des chansons en patois morvandiaux toutes les fêtes locales que j'ai pu connaître dans mon enfance.
Quel est votre dernier souvenir de lecture, votre dernière lecture bonheur ?
Ma dernière lecture ? Ah, je suis en train actuellement de lire un livre qui s'appelle Courlande et qui traite de ce pays un petit peu mystérieux du côté de la Lituanie, Lettonie, un pays voilé de brouillard et de mystère.
Alors, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que mercredi prochain, le 14 septembre, je recevrai Roland Brandly pour évoquer son roman Jojambe. Et il se passe, Georges Raymond, que vous connaissez bien. Vous avez connu
tout à fait Roland Brandly. Et c'est une femme à laquelle je voudrais rendre ici hommage parce que c'était non seulement une enseignante de très haute qualité, mais qui, à travers sa vie, à travers les difficultés qu'elle a pu connaître, a réussi à s'en sortir, j'allais dire à travers son art en particulier. Elle était à la fois écrivain, et je vois qu'elle a sorti un roman.
Aux éditions Jojambe, du Panier d'Ortie, qui est un éditeur associatif indépendant installé dans la Nièvre.
Mais aussi une artiste de grand talent, puisque elle a, pendant des années, confectionner des tapisseries qui ont donné lieu à des expositions. Je pense en particulier à une exposition qui a eu lieu de ses œuvres à Avallon. Et c'est vrai que je veux lui rendre hommage par sa personnalité, par son art, par ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu, et son travail aussi, ses œuvres aussi.
Écoutez, ce sera chose faite mercredi prochain dans Wagon Livre. Merci Georges Raymond, et je rappelle le titre de votre recueil, Ici, Vente et Morvante, sous-titré Promenade en poésie. Merci messieurs, et puis aussi le recueil de Paul-Henri Vincent qu'on a entendu il y a quelques minutes. Merci, merci à vous.
Merci.
Avant de nous quitter, je me permets d'insister, mais ne manquez pas ce dimanche 11 septembre, le Salon du Livre à Saint-André-en-Morvan. Vous y rencontrerez plus de 40 auteurs, éditeurs,
sous-chapiteau au pied de l'église que le peintre Corot a immortalisée en 1842 dans une de ses œuvres, actuellement exposée au musée du Louvre, le Salon du Livre de Saint-André en Morvan, qui, cette année, a choisi Barbara Moreau comme invitée d'honneur. Barbara Moreau qui donnera d'ailleurs son spectacle dans l'après-midi. Je signale aussi la reprise à la bibliothèque d'Auxerre au service enfant de l'heure du conte, hein, qui a retrouvé son rythme. Il y en avait un donc ce matin à 10h30. Prochain rendez-vous avec l'heure du conte les 14, 21 et 28 septembre. C'est à 10h30. L'entrée est libre et c'est à la bibliothèque d'Auxerre. Et puis si vous avez envie de retrouver et de découvrir plus profondément le patrimoine de la ville d'Auxerre, eh bien procurez-vous le dernier numéro de Pays de Bourgogne, c'est le numéro de juillet 2011, certes il est toujours disponible dans les kiosques, c'est le numéro 229, un numéro totalement consacré à la ville d'Auxerre, Pays de Bourgogne, une très belle revue que nous apprécions énormément ici dans Wagon Livre. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Je recevrai Roland Brandly qui évoquera son roman Jojande, paru aux éditions du Panier d'Ortie. Un roman en partie autobiographique dans lequel l'auteur aborde les grands thèmes de toute existence humaine, la vie, l'amour, passion, mais aussi les doutes existentiels et l'angoisse de la mort. Un très beau texte à découvrir aux éditions du Panier d'Ortie et des réflexions à partager donc avec notre invité Roland Brandly, mercredi prochain, 14 septembre, à 21h dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Ne manquez pas donc le Salon du Livre de Saint-André en Morvan et surtout, notez bien les 24 et 25 septembre prochains, Livres en Vigne, Salon du Livre qui se tiendra dans le cadre prestigieux du château du Clos de Vougeot. Merci de votre attention, excellente fin de soirée à l'écoute des programmes musicaux de Radion. Au revoir et à mercredi prochain.